Le journal, présenté par Lucas Catriti.
Bonsoir. Benjamin Netanyahou ne cède pas face à la minorité druze. Hier, plusieurs milliers d'entre eux ont manifesté contre la loi État-nation du peuple juif. Aujourd'hui, le Premier ministre défend son texte. Nicolas Maduro a été visé par un attentat au drone cette nuit au Venezuela. Il en sort indemne et il a immédiatement accusé le président colombien. Nous serons en direct de Bogota. 400 migrants qui tentaient de rejoindre l'Espagne par la mer ont été secourus ce week-end. Plus qu'un énième sauvetage, cela appuie encore le fait que l'Espagne est devenue la porte d'entrée en Europe pour les migrants. Vous entendrez également le portrait d'Arsène Tchakarian, dernier résistant du groupe Manouchian, qui s'est éteint hier à l'âge de 101 ans. Et c'était une figure du mouvement pour légaliser l'euthanasie. Marie Imbert est décédée. Elle était notamment connue pour avoir administré des médicaments à son fils devenu tétraplégique, ce qui avait mis fin à ses jours. Elle était, pour les militants, une femme extraordinaire. Benjamin Netanyahou persiste et signe sur la loi État-nation en Israël, et ce malgré la controverse. Hier, des dizaines de milliers de druzes ont manifesté à Tel Aviv. Cette minorité arabophone et musulmane de l'État hébreu s'est unie pour protester contre cette loi. Adoptée il y a près de 3 semaines, ce texte à valeur constitutionnelle atteste du caractère juif d'Israël, faisant fi des minorités. Et malgré les nombreuses oppositions, le Premier ministre israélien continue de défendre cette loi. Les explications de Marine Vlaovic, la correspondante de RFI dans la région.
L'État d'Israël est l'État national du peuple juif, a martelé Benjamin Netanyahou aujourd'hui en Conseil des ministres. Pas question donc pour le chef du gouvernement israélien de céder après la démonstration de force de la communauté druze. Cette minorité méconnue, arabophone et musulmane, a réuni hier des dizaines de milliers d'Israéliens venus dénoncer ce texte controversé qui fait l'impasse sur les minorités vivant dans l'État hébreu. Cette loi est le seul moyen, selon le Premier ministre israélien, d'assurer pour les générations à venir le futur d'Israël en tant qu'État national juif, et c'est un véritable affront pour la communauté druze qui, contrairement aux autres Arabes israéliens, sert dans l'armée. Les officiers réservistes à la tête de la contestation demandent un simple amendement garantissant le droit des minorités. Certains députés se sont déjà prononcés pour une loi ordinaire séparée fixant uniquement le sort des druzes, une option déjà refusée par les premiers concernés, tandis que le Parlement israélien a convoqué une session extraordinaire sur le sujet mercredi prochain.
Marine Vlaovic. Le président vénézuélien accuse son homologue colombien Juan Manuel Santos d'être responsable de l'attaque au drone chargé d'explosifs la nuit dernière à Caracas. Nicolas Maduro l'assure. Je n'ai pas de doute que le nom de Juan Manuel Santos est derrière cet état, a-t-il affirmé. En direct de Bogota, Marie-Ève de Teuf, bonsoir.
Bonsoir.
Le gouvernement colombien a catégoriquement rejeté cette accusation, la qualifiant d'absurde.
Oui, la version officielle de l'attentat donnée par Nicolas Maduro ne convainc pas tout le monde, même au Venezuela. Même au Venezuela, certains de l'opposition évoquent un accident ou un montage. Le mouvement d'opposition Front Ample s'étonne que le président Maduro soit plus soucieux d'attaquer la Colombie que de mener une enquête sérieuse. Le chef de l'État est soupçonné de vouloir faire diversion alors que son pays traverse une tragédie humanitaire. Un groupe rebelle a bien revendiqué l'attentat au Venezuela quelques heures après l'incident, sans apporter de preuves. Il s'appelle les soldats en t-shirt. Ce groupe dispose d'un compte Twitter depuis 2014. Il affirme intégrer des militaires, mais on n'en sait pas plus. Alors ce n'est pas la première fois que Nicolas Maduro se dit victime d'un attentat et ce n'est pas la première fois qu'il accuse la Colombie. Bogota a donc réagi avec calme. Les accusations sont absurdes et sans fondement, dit le communiqué officiel de la présidence colombienne qui n'a pas condamné l'attentat. La présidence a fait savoir non officiellement que, je cite, « le président Santos est accaparé par le baptême de sa petite-fille Céleste et ne s'occupe pas de renverser des gouvernements étrangers ». Les médias colombiens ne s'intéressent pas beaucoup à cette affaire d'attentat. Il faut savoir que Juan Manuel Santos quitte le pouvoir dans 3 jours. Mais son successeur Iván Duque, qui vient de la droite dure et très anti-Maduro, une escalade entre les deux gouvernements n'est pas à exclure.
Merci Marie-Ève Duteuf, vous étiez en direct de Bogota. Et les États-Unis ne sont pas impliqués dans l'explosion des drones. Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche l'annonce. Parce qu'en plus d'avoir accusé Juan Manuel Santos d'être à l'origine de l'attentat, le président du Venezuela a assuré que des personnes résidant en Amérique étaient également impliquées. Une alerte tsunami déclenchée en Indonésie, puis quasiment aussitôt levée. Fausse alerte. Après un séisme de magnitude 7 qui a secoué une île indonésienne, il y a une semaine, un premier tremblement de terre avait déjà touché cette île touristique à l'est de Bali. Il avait fait 17 morts. Près de 400 migrants secourus en mer entre le Maroc et l'Espagne. Ils naviguaient à bord de 9 embarcations dans le détroit de Gibraltar et dans l'ouest de la Méditerranée. Les deux points de passage les plus fréquentés pour rejoindre l'Espagne. Le nombre total de migrants qui essayent d'atteindre les côtes européennes est en baisse par rapport au pic de 2015. Mais l'Espagne connaît une augmentation constante des arrivées par la mer. Et ce, depuis plus d'un an. Ce pays est désormais devenu la porte d'entrée en Europe pour les migrants. En Espagne, Marie-Hélène Ballestero.
Selon le dernier rapport publié il y a quelques jours par l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM, depuis le début de l'année, près de 23 000 personnes sont arrivées en Espagne par la mer, ce qui veut dire que plus de migrants sont arrivés en 7 mois que sur l'ensemble de l'année dernière. L'Espagne est donc devenue la première porte d'entrée par la mer de migrants en Europe, en dépassant l'Italie et la Grèce. La plupart de ces migrants arrivent sur les plages de Cadix, en Andalousie. Les mairies de cette province sont particulièrement débordées, c'est le cas par exemple d'Algeciras, Tarifa, Jerez ou de Barbate. Justement, le maire de Barbate a réclamé hier à l'État des aides économiques pour faire face aux coûts que représente pour ses municipalités l'arrivée massive de ces migrants. Et dans ce sens, en début de semaine, le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, a demandé à Bruxelles des financements d'urgence du Fonds européen pour l'asile, la migration et l'intégration. Réponse positive, la Commission européenne a décidé de débloquer rapidement une allocation de près de 30 millions d'euros pour aider l'Espagne à gérer ce flux continu de migrants. Pendant ce temps-là, la question de l'immigration clandestine est devenue un enjeu de politique interne en Espagne. L'opposition conservatrice accuse le nouveau gouvernement socialiste d'avoir créé un appel d'air. Mais l'exécutif de Sánchez rappelle au Parti populaire que l'arrivée massive de migrants a démarré en 2017 alors que Rajoy était au pouvoir et qu'ils n'ont rien fait pour s'y préparer.
Les précisions de Marie-Hélène Ballestero en Espagne. La star américaine du basket, LeBron James, insultée par Donald Trump après l'avoir accusé de renforcer le racisme, a reçu ce week-end les soutiens de nombreuses personnalités du sport, des médias, mais aussi de la politique, y compris celui plus inattendu de la femme du président Melania Trump. Cette affaire débute avec une interview du basketteur sur CNN. Il prend position et estime que le président américain essaye de diviser son pays. Donald Trump réplique par un tweet, comme à son habitude, et là, la première dame s'oppose à son mari une nouvelle fois, au point de devenir une figure anti-Trump pour les médias américains. À Washington, Pauline Simonet.
Le tweet de Melania Trump est un soutien très clair à la star des Lakers, l'un des plus féroces critiques de son époux. LeBron James travaille à de bonnes choses pour les générations futures, souligne la première dame, se disant prête à l'idée de visiter la nouvelle école fondée par le basketteur, un projet pour jeunes défavorisés dans l'Ohio qui s'inscrit dans la campagne de Melania contre le harcèlement des enfants. La presse, globalement hostile à Donald Trump, se saisit de cette nouvelle rebuffade infligée au président, saluant le courage de la première dame. Au départ quasiment invisible à Washington, elle marque publiquement sa désapprobation depuis quelques mois, comme en pleine polémique sur la séparation des enfants migrants de leurs parents. Elle s'est rendue dans un centre pour mineurs arborant une veste avec cette inscription « Je m'en fiche complètement », interprétée comme un pied de nez au président. En réaction au scandale sexuel impliquant son mari, Melania Trump ne s'est pas rendue à plusieurs événements publics et des images de sa main refusant dans la cécelle de Donald Trump sont diffusées en boucle par les grands médias, faisant de Melania la nouvelle icône du combat anti-Trump aux États-Unis.
Pauline Simonet depuis Washington. Le Bangladesh coupe Internet mobile pour contrer des manifestations étudiantes. Ces protestations durent depuis une semaine et ont dégénéré. Hier, une centaine de jeunes ont été blessés lors de heurts avec la police. Des milliers d'étudiants ont bloqué une partie de la capitale, Dhaka, pour réclamer une meilleure sécurité routière. Après la mort de deux jeunes percutés par un bus qui roulait trop vite, la première ministre bangladaise les appelle aujourd'hui à rentrer chez eux. Le dernier résistant du groupe Manouchian est mort hier à 101 ans. Unité tristement célèbre avec l'affiche rouge, ce poster de propagande de Vichy qui portait les photos de 10 membres condamnés à mort. Arsène Tchakarian était d'origine arménienne. Il était membre des francs-tireurs partisans main-d'œuvre immigrée pendant la Seconde Guerre mondiale. Résistant dès 1940 aux côtés de Missak Manouchian, il a ensuite rejoint le groupe éponyme, puis a participé à la libération de Montargis. Elia Bergel, bonsoir.
Bonsoir Lucas, bonsoir à tous.
Après la guerre, Arsène Tchakarian entamera un long travail de transmission de la mémoire de la résistance.
En février dernier, et même âgé de 101 ans, Arsène Chakarian insiste. Il veut participer à une cérémonie d'hommage à ses compagnons du groupe Manouchian. À Ivry-sur-Seine, il dépose une gerbe au pied du monument qui célèbre les résistants de l'affiche rouge. L'engagement de Chakarian dans la résistance a commencé en 1940. Il fait partie de ceux dont le destin a été chamboulé par la guerre. Promis au séminaire, il se retrouve à lutter contre les nazis. D'abord dans l'armée française pour laquelle il combat dans les Ardennes, puis dans la clandestinité dès 1940. En 1942, il rejoint formellement le groupe Manouchian. Il réussit à échapper aux griffes des nazis quand le reste de son groupe est capturé. Après la guerre, il deviendra tailleur, mais surtout Arsène Chakarian consacrera sa vie à la transmission de la mémoire de la résistance et de la Seconde Guerre mondiale, une période qui l'a profondément marqué d'après ses proches. Un ami le décrit comme malicieux, très sensible. Arsène Chakarian était également polyglotte et aimait beaucoup peindre, notamment les paysages marins. Mais surtout, l'ancien résistant aura porté toute sa vie le combat de ses camarades. « Je pense à eux tous les jours depuis la fin de la guerre », c'est ce qu'il avait affirmé dans une interview à la télévision. Et comme en avance sur son temps, il insistait pour qu'Olga Bansik, la seule femme du groupe Manouchian, ne soit pas oubliée.
Merci Elie Abergel pour ce portrait d'Arsène Chakarian. Elle avait aidé son fils à mourir. Elle, c'est Marie Imbert, mère de Vincent, symbole du mouvement en faveur de l'euthanasie. Elle est morte cette nuit. Il y a 15 ans, elle a administré des médicaments à son fils devenu tétraplégique, aveugle et muet à la suite d'un grave accident de la route. Elle avait été mise en examen pour empoisonnement avec préméditation, mais a finalement bénéficié d'un non-lieu. Ce geste avait relancé le débat sur la fin de vie en France, donnant lieu à la première loi Leonetti en 2005. Jean-Luc Romero, le président de l'Association pour le droit à mourir dans la dignité, revient sur le combat de cette femme qu'il qualifie d'extraordinaire.
C'était une grande figure avec son fils. Ils ont évidemment apporté beaucoup puisque c'est eux qui sont à l'origine de la prise de conscience des politiques qu'on mourait mal en France jusqu'au cri de Vincent. On peut pas dire que les politiques s'intéressaient vraiment à la question de la fin de vie. Et à partir du moment où il y a eu cet appel au président de la République et puis ce geste de cette mère courage, il y a eu une telle émotion des Français qu'enfin, les politiques se sont intéressés à la question de la fin de vie, même s'ils n'ont pas apporté la réponse qu'évidemment on attendait, que Marie Imbert attendait. C'est d'abord une maman qui a fait un geste d'amour. C'était une femme qui a été, pendant le combat de son fils et après, extrêmement engagée. Et puis c'était d'abord une amoureuse de la vie. Et moi, je me rappelle tous ces moments heureux qu'on a pu aussi vivre ensemble, parce que Marie Imbert, c'était ça, c'était un combat, mais c'était une femme amoureuse de la vie aussi.
Romero, le président de l'Association pour le droit à mourir dans la dignité. Et pour terminer ce journal, nous vous emmenons dans le parc de la Villette à Paris. Voilà maintenant 28 ans que Parisiens et touristes peuvent regarder des films en plein air gratuitement. Jusqu'au 19 août, les projections, organisées du mercredi au dimanche, rassemblent chaque soir plusieurs milliers de personnes. Et cette année, le thème de la musique est à l'honneur de la programmation, avec par exemple ce soir un classique de la nouvelle vague, Pierrot le Fou, de Jean-Luc Godard, début de la projection à 22h. Alexis Demeyer, le succès du cinéma en plein air de la Villette ne se dément toujours pas.
Il y a les habitués comme Sébastien qui vient depuis 20 ans.
C'est toujours aussi sympa, je sais pas combien il y a de personnes, il y a 5000 personnes, il y a tous les gens du quartier qui viennent. Le côté pique-nique que t'enchaînes avec le cinéma, c'est toujours très convivial.
Et il y a les nouveaux comme Louis qui, à peine arrivé, apprécie le concept dans ses moindres détails.
Alors là, on nous a mis à disposition des tire-bouchons afin de profiter du cinéma. Et je trouve ça plutôt chouette qu'ils acceptent qu'on ramène nos boissons sans non plus abuser, mais en tout cas en profiter tranquillement.
Louis accompagne Binta, devenue depuis 3 ans une inconditionnelle.
C'est cool qu'ils fassent ça gratuit, en plein air, à Paris. Et puis voir un film cool, la prog est vraiment, vraiment très chouette.
La plupart des cinéphiles en plein air apportent leur pique-nique, mais comme dans tout bon cinéma, il y a aussi un bar. Baptiste est derrière le comptoir.
On a des bières, des hot-dogs, des chips, bien sûr les pop-corn sucrés salés. Cinéma et pop-corn, c'est une longue histoire d'amour quand même.
Et l'histoire d'amour entre la Villette et le 7e art dure depuis 28 étés. Frédéric Mazzelli est le programme amateur du cinéma en plein air.
Ce festival, effectivement, il s'inspire en fait d'une histoire du cinéma qui a toujours existé, en fait, parce que dans les villes, on s'est équipé assez vite de salles de cinéma, mais dans les campagnes, dans les années 50, dans les 60, le cinéma de plein air existait. Donc la Villette a repris cette idée qui marche très bien.
Chaque année, près de 150 000 spectateurs viennent s'aérer l'esprit à la Villette.
Un reportage d'Alexis Demeyer. Et à partir de mercredi prochain, il y aura notamment au programme Rivière sans retour, Bande de filles et les parapluies de Cherbourg. Enfin, la météo de cette soirée, la nuit sera un peu plus fraîche, 26 degrés en Île-de-France, tout comme en Corse, et seulement 20 en Bretagne. Demain, les conditions évolueront peu, beaucoup de soleil, une forte chaleur et un risque orageux plus marqué sur les Alpes l'après-midi. Tôt le matin demain, excepté quelques grisailles sur les côtes du sud de l'Aquitaine et le Nord-Bretagne, le ciel sera dégagé. En journée, quelques orages sur le massif alpin. Ailleurs, c'est à nouveau une belle journée ensoleillée qui se prépare et elle sera très chaude avec des températures en hausse au nord. Les températures maximales atteindront jusqu'à 39 degrés entre la Charente et le nord de l'Aquitaine.